Bon, c'est parti. Bon, je vais commencer, s'il vous plaît, madame, par vous demander votre nom et votre date et lieu de naissance, s'il vous plaît.
Alors, Hélène Bleskine, je suis née à Sannois, c'est à côté d'Argenteuil, dans la banlieue parisienne, le 26 août 1946.
Et est-ce que vous pouvez me dire quelque chose de votre famille, de votre c'était quel genre de famille et quel rapport vous avez avec la famille à cette époque-là quand vous étiez jeune?
Ben, mon père est d'origine russe, il est né à Saint-Pétersbourg,
Ah oui?
donc en 1922, il est toujours là,
Ah oui?
ma mère aussi, donc ils sont toujours ensemble. Mon père était ingénieur électronicien,
Oui.
donc il y a toute une partie donc, du côté de mon père qui sont des Russes immigrés.
Oui, mais ils sont venus en France à quel
Dans
moment?
les années 20. Après la Révolution
Ils étaient
russe.
des Russes blancs?
Non,
Non, des
non, non.
Russes rouges?
Mais c'est justement l'objet d'un des livres que j'écris
Mais
sur
pourquoi ils sont
les.
venus en France?
Ils ont fui la. Il y avait une. Mon arrière-grand-père, je crois, était diplomate russe, donc sous le tsar. Donc il y avait quand même. En 14, il était à Berlin, il est
D'accord.
revenu. Après, son fils avait quand même fait l'école des cadets, donc il y a toute une partie de la famille qui a émigré
Oui.
aux États-Unis et en France. Et ma grand-mère, on dit qu'elle a été bolchevique, donc c'est comme ça qu'elle a réussi à faire partir sa famille dans les années 20. Mais tout ça, c'est les ombres et les lumières dans les familles.
Oui,
Je ne
d'accord.
peux pas vérifier. J'ai essayé, je suis allée en Russie, mais je n'ai pas trouvé de piste. Et ils sont. Donc ma grand-mère est arrivée à la fin des années 20, alors que son fils était déjà là avec le reste de la famille et avec sa propre grand-mère à lui. Donc mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père donc était diplomate russe.
Oui.
À Vienne et à Berlin, il avait épousé une femme allemande.
Ah ouais,
Donc,
d'accord.
mon arrière-grand-mère s'appelait Asseyev, enfin, en se mariant avec un Russe,
Oui.
elle s'appelait Asseyev. Et donc,
Et le nom du grand arrière-grand-père diplomate,
Asseyev,
Assayer toujours, oui.
voilà.
Bon, oui.
Et après, parce que j'ai posé la question à mon père. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre? Je dis, mais si elle était allemande, comment elle a pu faire
Oui.
ici? Pourquoi elle n'a pas été arrêtée dans les camps
Oui.
avant, en 39, quand ils ont
Oui.
arrêté tous les Allemands?
Oui.
Et il m'a dit non, parce qu'elle s'appelait Asseyev.
Ah, mais d'accord.
Elle était russe, quoi. C'était
D'accord.
une Allemande, mais qui était devenue russe.
D'accord.
Donc ils étaient ici, en tant que russe, mon père, et avec le passeport Nansen,
D'accord.
réfugié russe. Et donc mon père s'est naturalisé après la guerre.
Après la
Et
Deuxième Guerre.
après la Deuxième Guerre.
D'accord. Oui, bien sûr.
Et donc
Donc il a travaillé en France comme ingénieur ou...
il a travaillé en France toute sa vie pour. Il travaillait à l'Olivetti dans la boîte italienne là.
Oui.
Donc lui, il était ingénieur informaticien. Et mes parents, ma mère est française. D'origine normande.
Ah oui, d'accord.
Il a épousé ma mère, je pense, dans les années. Ils étaient très jeunes, ils devaient avoir 20 ans. Donc, ils sont nés en 22 tous les deux, ça fait en 40. Et ils ont eu 5 enfants, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est pour. Donc, il y a. Je réfléchis sur cette histoire des mémoires familiales et
Oui.
j'écris un livre qui s'appelle Page russe, où
Oui.
je réfléchis à cette présence de cette grand-mère russe que j'ai beaucoup aimée et qui était pleine de mystères, qui ne disait rien du tout.
Ah bon?
Et qui aurait été bolchevique.
Ah oui, d'accord, voilà. Formidable. Donc vous pensez que ce passé un peu exotique vous a influencé un peu?
Oui, bien sûr.
Comment?
Je sais pas, il y avait quand même un... Non, pas un mythe de la révolution russe, puisque ma grand-mère, après, disait tout le temps que le pire des choses qui étaient arrivées à la Russie, c'était les bolcheviks.
Alors, oui.
Donc voilà, mais je sais pas, j'imaginais, enfin, dans ce que j'écris
oui.
maintenant,
oui.
aurait-elle été manichévique, aurait-elle... parce qu'elle, elle était fille de diplomate. Donc,
oui.
les choses qu'on sait, même mon père ne sait pas. Elle était embauchée au ministère des Affaires étrangères parce qu'elle parlait plusieurs langues
oui.
après la Révolution, au commissariat aux Affaires étrangères. Et donc, elle aurait, grâce à ça, pu faire partir sa mère, ses frères et
oui.
sœurs, etc. Mais elle n'a jamais raconté. Et mon père était tout petit, donc il ne sait pas plus.
D'accord.
Donc, après, on a dit, il y a eu tout un mythe sur... comme sa mère était allemande, elle aurait été espionne, elle serait partie... Enfin, tout un truc sur ma grand-mère qui me fascine, donc qui
oui,
est l'objet du livre que je n'ai pas publié, qui s'appelle « Page russe », qui est une sorte de méditation sur l'histoire. Et en quoi ça aurait pu influencer... mon engagement dans les années 68, quoi. Je sais pas.
Oui, non, mais c'est très intéressant, on peut revenir là-dessus. Mais en ce qui concerne les études, comment ça s'est passé?
À cette époque-là, mon père travaillait dans toute la région de l'Est de France, donc toutes les années de lycée, on a vécu à Nancy.
Oui, d'accord.
Et là, il y avait, vous savez, avant 68, donc. 65, quelque chose comme ça. Moi, je voulais faire du théâtre, donc j'avais préparé le concours du conservatoire de Nancy. Et c'est là que je suis tombée sur le théâtre universitaire de Nancy, où il y avait Jacques Lang,
ah oui.
qui était en train de créer le Festival international de théâtre. Et donc, c'est là aussi que j'ai... ma vie a pris un tournant. Disons que j'ai commencé à faire du théâtre avec la troupe du théâtre universitaire de Nancy et à participer à la création de ce festival de théâtre qui était extraordinaire dans ces
oui.
années-là.
Oui.
Où il y avait le Bread and Puppets, le Campesino, c'était toute l'époque de la lutte contre la guerre au Vietnam.
Oui.
Et donc il y avait aussi beaucoup d'expressions politiques
D'accord.
dans le théâtre. Et c'est là que j'ai dû me révéler à moi-même en tant qu'artiste plutôt, mon destin. Donc j'ai pas fait d'études.
Non,
je suis allée jusqu'au bac, mais après j'ai fait du théâtre et après on est venu à Paris et je suis rentrée à l'Université du Théâtre des Nations. C'était une époque extrêmement vivante pour le théâtre. Et donc 68 est arrivé là, et donc après j'ai fait du théâtre de rue, quoi.
D'accord.
C'est comme ça que ça s'est fait, par le théâtre, influencé par tous ces mouvements, comme je vous dis, du théâtre du Bread and Puppets, du Campesino.
Qui était un troupe américain, non?
Oui, toutes ces grandes troupes américaines.
Américaines, oui.
Et donc ce que je peux rajouter, c'est que mes frères... Avant 68, mes frères aînés, mes grands frères,
oui.
étaient au Parti communiste et ils étaient militants contre la guerre d'Algérie et que beaucoup de leurs copains, au moment de la création de l'UJCML, ça vous devez connaître,
oui.
sont devenus maoïstes. Mais moi, j'étais extérieure à tout ça parce que j'étais encore trop jeune, mais... Et en même temps, j'étais fascinée par cette radicalité dans laquelle mes frères ne sont pas entrés.
C'était des frères aînés.
Oui.
Ils ont fait partie de...
Ils n'ont pas été à l'UJCML, ils sont restés communistes.
Ils sont restés communistes, carrément.
Oui.
Mais dans...
Mais à Nancy, il y avait toute une mouvance, comme ça, avec tous leurs copains. Et ils étaient...
C'était l'Union des étudiants communistes?
Oui.
Ou le Parti communiste?
Non, l'Union des étudiants
Oui,
communistes. Tout
d'accord.
ça, c'était les étudiants, oui.
Donc
Mais
ils ne
donc
sont
déjà
pas.
avant 68, j'étais attirée par les comités Vietnam de base, qui étaient plutôt où j'avais des copains et que
Toujours à Nancy ou à
toujours à
Paris
Nancy,
maintenant?
toujours à Nancy et
Oui.
après à Paris. Parce que juste à la fin de 67, j'ai été faire un stage chez Planchon à Villeurbanne
Oui.
et donc de théâtre. Et donc, je suis rentrée à Paris, j'avais une amie qui était dans des comités Vietnam de base, et donc
Oui.
je me suis rapprochée. Mais je n'étais pas dans une organisation,
D'accord,
c'était juste une
la
mouvance.
mouvance,
Une mouvance,
oui.
et dans le théâtre, à l'Université du Théâtre des Nations, qui était installée au Châtelet, au-dessus du Théâtre de la Ville, il y avait beaucoup de courants de théâtre radical. De ce qu'on appelait le théâtre radical à l'époque, c'est-à-dire très influencé par ce théâtre radical américain.
Mais radical dans quel sens?
Ben, des grandes troupes qui jouaient qui étaient militantes aux
Oui.
États-Unis contre la guerre du Vietnam.
D'accord.
Et donc, nous, ça nous fascinait, ce
Tout à fait.
théâtre-là.
Est-ce que vous avez des camarades de cette époque-là qui avec qui vous êtes resté dans votre carrière d'engagé, si vous voulez? Est-ce
Non,
qu'il y a.
après, il y avait beaucoup dans cette Université internationale du Théâtre des Nations,
Oui.
il y avait beaucoup de Sud-Américains.
Oui.
Il y avait aussi des metteurs en scène comme Victor Garcia. Enfin, c'est toute une époque du théâtre, mais il faudrait que je me replonge dedans.
Oui.
Qui a donné, et beaucoup de gens sont repartis en Amérique latine, et après je les ai totalement perdus de vue. Et quelquefois, 30 ans après, il y a quelqu'un qui m'appelle en disant, tu te rappelles? Mais parce que moi, j'ai pris à ce moment-là, j'ai créé une troupe de théâtre qui s'appelait j'étais, comment on appelle ça, surveillante, pionne, dans un
Oui.
lycée en banlieue, à Clamart. Et donc, j'ai créé la troupe du théâtre lycéen. Dans le lycée. Et donc, on est allé jouer dans les banlieues, on a créé une troupe aussi, avec c'est un peu compliqué à expliquer, mais ça, c'est après 68.
Oui.
J'ai été au comité d'action du 14e.
Oui.
Et donc là, j'ai rencontré Monique Friedman, qui est une grande peintre aujourd'hui. Et on a créé une troupe, elle a fait des énormes marionnettes, et donc on s'est lancé dans le théâtre de rue.
D'accord.
Et donc, j'ai monté des pièces dans ce lycée. Je n'ai même pas gardé tous les articles qu'il y a eu
Oui,
sur cette
oui.
époque-là. Et donc, c'est comme ça que l'organisation. Maoïste, les Mao Spontex, Vive la Révolution,
Oui.
qui était très culturel
Oui.
après 68, dans tout le panel du gauchisme, sont venus nous trouver pour qu'on aille jouer à Renault-Flins
Ah oui, d'accord.
parce qu'il y avait le scandale du trafic d'embauche, l'attaque de la mairie de Meulan, et
Oui.
c'est comme ça que je me suis greffée avec un groupe qui était Vive la Révolution,
D'accord.
et qu'après je me suis établie. Quand il y a eu l'établissement qu'on a
Oui, c'est ça
été
que vous
habité,
racontez dans
voilà.
votre livre, L'espoir gravé.
Voilà.
Donc, c'est qui en particulier vous a recherché, vous a intégré dans ce
Ben,
groupe Vive la Révolution?
Vive la Révolution, qui était ce mouvement, parce que ce n'était pas vraiment une organisation.
Oui.
L'histoire de Vive la Révolution, mais là il faut repartir en arrière, c'est-à-dire c'est. Au moment de l'éclatement de l'UGCML, cette
Oui.
fameuse UGCML de l'école de la rue d'Ulm,
Oui.
qui a explosé et qui a donné plusieurs groupes, dont la gauche prolétarienne, Vive la Révolution avec Roland Castro, Tiennot Grimbach, enfin, nos cadres, comme on disait, du mouvement Vive la Révolution, qui était beaucoup plus dans la ligne du mouvement du 22 mars que dans la
Oui.
ligne de politique de la cause du peuple. Même
Oui.
il y avait une extraordinaire divergence entre eux.
Oui, je vois.
Donc,
Et selon vous, quelle était l'idée, quelles étaient les idées principales ou la vision principale de vivre la révolution? C'était quel genre de révolution
ben
à laquelle ils pensaient?
on était très. Il faudrait repartir dans tous les textes du journal Tout
Oui.
qu'il y avait à l'époque. C'était quand même une expérimentation de la démocratie, de la parole,
Oui.
de l'agitation, de la spontanéité, des femmes, du mouvement de la jeunesse, de la musique, enfin de tout, quelque chose de beaucoup plus vivant et joyeux que l'organisation de la cause du peuple, qui était très avant-gardiste, justement,
Oui.
complètement militaire.
Donc une révolution culturelle plus qu'une révolution, ou aussi
Voilà.
bien qu'une révolution politique.
Voilà.
Oui.
Et d'ailleurs, il ne me serait pas venu à l'idée d'aller rejoindre la cause du peuple. Pourtant, j'ai été dans des endroits où ils étaient là, parce que c'était tellement militaire et rempli de mecs. Et il n'y avait pas de femmes à peine. Enfin, ici, il y en avait, mais disons, il y avait quand même dans ces années-là Mais Roland Castro, vous parlerez de ça 1000 fois mieux que moi.
Oui.
Parce que nous, on n'était quand même que des militants de base, donc on n'avait pas. C'est après que j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Donc, il y avait quand même, on pourrait dire, moi, quelquefois je dis, il y avait les bolcheviks, les mencheviks, les socialistes révolutionnaires. En fait,
Oui.
il y avait, ça se rejouait comme ça s'est toujours rejoué dans toutes les révolutions.
Tout à fait, oui.
Donc, il y avait la vision militaire. De l'engagement et une vision beaucoup plus culturelle de l'engagement dans lequel moi j'ai été
D'accord.
et que j'ai en plus expérimenté par le théâtre
Oui, d'accord.
dans ces années-là.
Donc vous êtes venu à Flins, c'était en 70, 60.
Oui, voilà, je crois 70.
Oui. Et dans votre livre, vous racontez que vous étiez à Gargenville.
Oui, c'est une petite ville à côté de Flins.
Et comment ça s'est passé, la vie quotidienne, par là, à l'époque?
On était encore dans l'esprit de mai, parce que
oui.
jusqu'à 75, même pas 75 peut-être, parce que mon livre est paru en 75, donc là c'était déjà la fin. Donc disons, c'était post-68, juste après 68, donc il y avait encore une espèce de grande liberté utopique.
Oui.
Donc pendant toutes ces années-là, il y avait ce désir de combler l'écart.
Oui.
Et donc d'aller à côté des usines ou dans les usines ou dans les campagnes, enfin tout ça, si vous étudiez tout ça,
oui,
il y
oui.
avait tout un mouvement de rapprochement. Est-ce que c'était une forme de populisme à la russe? Enfin, je prends le mot populisme,
oui.
pas au sens négatif, mais plutôt mystique, d'aller se rapprocher du peuple ou d'être dans le peuple ou au sens des populistes russes.
D'accord, non, je comprends bien.
De la
Mais
fin du 19e siècle.
Est-ce que ce n'était pas difficile d'avoir des rapports avec des ouvriers dans ces usines? Ça se passait comment? Parce qu'il y avait certains Mao qui sont établis comme ouvriers. Mais là, on parle de la base ouvrière. Je n'ai jamais compris exactement ce que c'était que la base ouvrière à Flins. Comment ça se passait?
Mais c'était une organisation très souple. Ce n'était pas du tout, justement, un groupe. C'était même pas.
Oh. Ah, je vais poser, si vous voulez. Alors.
Je ne sais pas, vous entendez. Vous avez vérifié, ça marche?
Oui, ça marche. Enfin, je suis quasiment certain, on verra après.
Parce que
donc, pour revenir à Flins et la base,
Ben, la base ouvrière, c'était une organisation. C'était même pas une organisation. C'était nous,
Oui.
on était dans une idée de mouvement, se mettre en mouvement.
Oui.
Donc, c'était très large.
Oui.
C'est-à-dire, il y avait des gens de la CFDT. D'ailleurs, on était beaucoup plus en lien
Oui.
avec les syndicalistes de la CFDT qu'avec la CGT, parce que, si je me souviens bien, dans ces années-là,
Oui.
la CGT détestait évidemment
Les gauchistes.
les gauchistes.
Oui.
Donc, il y avait. C'était d'ailleurs le début de la fin de. Parce que on était quand on dit on était anti-autoritaire, on était anti-totalitaire, mais on ne le savait pas à l'époque parce qu'on n'avait pas encore lu Hannah Arendt. Mais c'était un mouvement. Toute la France était en mouvement, de
Oui,
toute façon. Donc
d'accord.
tout le monde d'ailleurs entier était en mouvement. Donc même ce qui s'était passé en Tchécoslovaquie à ce moment-là, l'arrivée des chars russes. Donc il y avait vraiment quelque chose
Oui.
du communisme dans lequel on n'était pas.
D'accord,
On n'était
tout
non
à fait.
seulement pas dans le communisme, mais quand on n'était pas anti-communiste, mais on parlait d'un communisme de la liberté,
Anti-stalinien.
anti-stalinien. Mais on n'était pas en même temps trotskiste, qui
Non.
eux étaient anti-staliniens depuis 50 ans.
Ouais,
Donc
d'accord.
nous, on était. Pourquoi on était Mao-Spontex? C'était une vision de la révolution culturelle qui n'avait aucun rapport évidemment avec ce qui se passait en Chine. C'était complètement fantasmatique.
Oui.
C'était la révolution culturelle.
Oui.
Donc c'était une vision un peu évangélique
Oui,
de
tout à fait.
l'amitié, de la fraternité, comme là aujourd'hui tout le monde reparle de ça. Mais pourquoi on a fait une commune à Gargenville? C'était la tendance kibboutz
Oui,
de
vous appelez ça à l'époque une commune
Bon, on n'appelait pas ça
ou une
une commune non
communauté.
plus. Une communauté, oui, on le disait, mais on n'était pas du tout attaché à la définition de quelque chose.
Oui.
Donc, ce qui nous
Mais la
intéressait, c'était
pratique.
la démocratie directe devant parler. Ça, c'était issu
Oui,
directement
oui.
du grand bonheur qu'a été mai 68, de parler dans les rues, parler à la sortie des usines, parler, prendre la parole.
Donc ça se passait à la sortie des usines, dans les cafés,
Voilà, prendre la parole.
Oui.
Et ça, par exemple, on était très inspiré aussi par les mouvements américains, évidemment.
Oui.
Les mouvements de l'OTA Continua. On était même allé en Italie.
Ah oui, à
Mais
quel moment?
dans ces années-là, on
Oui.
est allé à un congrès de l'OTA Continua à Gênes, je crois. Donc, où il y avait tous les Italiens, ils s'installaient devant les usines et ils discutaient, tout ça. C'était par rapport à la cause du peuple, qui
Oui.
eux étaient clandestins déjà,
Oui.
et militaires, et qui ne se montraient pas. Nous, on disait qu'il fallait se montrer.
D'accord.
Il fallait être là, il fallait discuter, créer, c'était de la démocratie directe. C'est une vision. Mais tout ça était très spontané, donc il n'y avait pas de vision. Il n'y avait pas de dogme,
D'accord.
il n'y avait pas une ligne politique.
D'accord.
C'était ouvert. Et donc on avait l'impression de se transformer, de transformer nos rapports aux enfants, aux parents, tout ça, de discuter, de tenter ça, de vivre ça.
Oui,
Mais
parce que
maintenant,
vous.
avec le recul, j'appelle ça la tendance kibboutz
Voilà,
La
d'accord.
tendance de mai kibboutz de mai 68.
Parce qu'il y avait aussi une critique de la famille bourgeoise et vous vouliez aussi révolutionner les rapports entre individus, c'est ça?
Oui, on espérait certainement un mode. Je vous dis, c'était vraiment le mode de l'amitié et
Oui.
du partage.
Oui.
Donc quelque chose. C'était pas tellement, il n'y avait pas tellement à la base ouvrière, enfin dans le souvenir que j'en ai, parce que c'est
Oui.
toujours, on a des éclats de mémoire et après on transforme et tout ça. Donc, mais je suppose que quand on lit l'espoir gravé, on est plus plongé là-dedans
Oui,
que quand je le
absolument.
dis moi.
Oui, d'accord.
Et il n'y avait pas tellement non plus, il n'y avait pas la drogue, il n'y avait pas. la révolution sexuelle au sens où on l'a dit après, que c'était une révolution sexuelle où tout le monde couchait avec tout le monde.
C'était pas ça.
C'était pas ça non plus. C'était plus... Il y avait beaucoup de liberté, effectivement. C'était l'éloge de l'amour. Mais en même temps, dans cette communauté, on a fait l'expérience des limites. C'est pour ça qu'après, ça a explosé aussi. C'est-à-dire que l'amour est fondamentalement exclusif.
Oui.
Donc on peut pas vivre... Enfin, que la jalousie existe, par exemple.
Oui, d'accord.
Voilà, donc c'est des expériences intimes, c'est comme une éducation sentimentale. Et on était très jeunes et aussi on avait, bon, on voulait combattre la jalousie justement, au sens d'avoir des relations plus fraternelles entre les femmes,
oui.
Ne plus être dépendante du désir des hommes, etc., etc. Mais je ne me souviens plus très bien de tout ce qu'on pouvait dire à cette époque-là. Donc,
mais ça se passait comment au point de vue là où vous habitiez, c'était une grande maison ou à
Gargenville
ou comment ça se passait cette communauté?
Ben, je crois que vous trouverez ça mieux dans l'espoir
oui.
gravé que moi j'ai un peu oublié. Non.
Non, d'accord.
C'était une maison avec plusieurs pièces. Il me semble qu'on avait un pot commun d'argent.
Oui.
On a trouvé du boulot au début.
Ah oui.
Après, comme on était entièrement repéré par les renseignements généraux, donc on trouvait plus de travail même par les boîtes intérim.
Oui.
Donc on a trouvé, par exemple, un moment où on a été embauché à l'usine Renault,
oui.
À la cantine. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'on a été immédiatement dénoncé. Donc après, on a été assez étranglé économiquement parce qu'on
oui,
trouvait plus de boulot.
D'accord.
Il y avait une femme avec des enfants, donc on s'en occupait tous. Je dis tendance
oui.
kibbutz.
Oui.
Il y avait des histoires d'amour dans la maison, mais aussi à l'extérieur de la maison. Bon, il y avait aussi des hommes dans la maison, nos amoureux. Donc
oui.
c'était pas une maison de femmes, mais il y avait un noyau de femmes
oui.
amies. Enfin les.
Lesquelles en particulier?
Celles qui on était très amies quoi. C'était complètement, il n'y avait pas d'organisation.
Non, mais vous
donc on n'a même pas fait un noyau au sens.
Oui, d'accord.
C'est simplement des affinités électives ou je sais
oui,
pas.
Oui, d'accord. Mais est-ce qu'il y avait
une grande amitié.
D'accord.
Et donc c'est vrai qu'il y avait par exemple une autre maison dans la base ouvrière
oui.
qui était à Mantes-la-Jolie
oui.
où il y avait Thiénot Grimbach, où il y avait de. Là, c'était le noyau, si on peut dire, mais c'était pas formel. C'était plus des hommes.
D'accord.
Donc, mais c'était pas une maison de femmes non plus. C'était pas une maison d'hommes non plus. Donc c'était.
Et dans la vie quotidienne, il y avait une sorte de division de travail traditionnelle. Enfin, les femmes faisaient la cuisine, tout ça, ou non, c'était
non,
partagé.
Non, ça, c'était partagé.
Tout était partagé.
Oui. On écoutait beaucoup de musique, on discutait et il y avait beaucoup de gens qui passaient nous voir. Parce que c'était une époque où il y avait aussi d'autres groupes des militants de Rouge, des militants de la CFDT. Donc c'était une sorte de foyer. Quoi, puis on faisait des actions, on se levait le matin, on allait distribuer des tracts. Mais je ne me souviens plus, peut-être quelqu'un
non,
regardait
d'accord.
toute la mémoire
d'accord.
de ça.
D'accord.
Thiénot Grimbach, par exemple, qui est devenu un grand
oui.
Avocat.
Oui.
Lui, il a gardé toute la mémoire de cette
oui.
époque. Donc là, vous pouvez trouver
oui,
des
oui,
éléments.
Oui, tout à fait. Tout à... Non, mais votre
moi,
point de vue est aussi important. Par exemple,
le souvenir d'une grande sincérité, de beaucoup d'affection, quoi, une espèce d'élan, un peu théâtral. Mais comme moi, j'étais
comment
dans
ça
le,
oui.
dans le, de la représentation de. C'est-à-dire qu'on vivait au grand jour ça,
oui.
et on se donnait en spectacle au fond, puisque la maison était ouverte.
Oui, d'accord.
Il me semble que c'est ça que je raconte dans le livre.
Oui, tout à fait. Et
mais c'est pas,
plus précisément, vous parlez de
pour montrer l'exemple.
Vous avez fait venir le théâtre du Soleil.
Voilà. Donc après, il y a aussi le théâtre du Soleil qui est venu. Il y avait, on a organisé aussi des concerts. Moi, je me suis occupée d'un théâtre avec des enfants à Mantes-la-Jolie.
Oui.
Donc il y avait l'aspect culturel qui était très important. Mais en même temps, c'était une époque où le top du top, c'était quand même de se faire embaucher à l'usine.
D'accord.
Mais on n'y arrivait plus à un moment donné.
D'accord.
Sauf effectivement ce que faisaient à cause du peuple qui, eux, étaient clandestins.
D'accord.
Et s'étaient fait embaucher comme des ouvriers, donc ne pouvaient pas être repérés comme gauchistes.
D'accord.
Donc, ce qui était tout à fait impossible pour nous. Même si on a réussi à un moment donné à travailler même un mois dans un boulot. Mais c'était impossible parce qu'on était totalement fichés et repérés.
D'accord.
Donc on ne pouvait pas se faire embaucher dans les usines, notre groupe.
Et en ce qui concerne les gens...
Il y a une émission, vous pouvez chercher, là il y a France Culture qui a fait 3 émissions sur il n'y a pas longtemps, qu'elle a appelé les établis.
Ah oui, d'accord.
Et ils sont venus me voir, bon, moi j'ai expliqué que c'était presque un établissement culturel. C'est pas au sens les établis comme on réussit à être établis pendant des années.
Oui.
Des militants de la cause du peuple ou des trotskistes ou des luttes ouvrières ou je sais pas quoi, tous les groupes qui sont vraiment très ouvriéristes, qui étaient à l'usine mais qui n'étaient pas repérés en tant que militants gauchistes.
D'accord. Et dans vos rapports avec les gens du coin, il y avait des femmes du coin, il y avait des ouvriers, des immigrés, comment ça s'est passé?
Ben, c'était très... je vous dis, c'était pas une organisation, donc on n'était pas en train de pêcher dans le peuple pour créer une organisation.
Oui.
C'était un courant, un mouvement.
Oui, d'accord.
La base ouvrière, évidemment, il y avait tout le côté se rapprocher du monde ouvrier, mais il n'y avait pas... En plus, pourquoi Flin? Parce que, justement, la CGT n'était pas très puissante. Donc il y avait tout ce concept, si je me souviens bien...
Oui.
Que développait VLR dans le journal Tout qui était la France sauvage, c'est-à-dire celle qui n'est pas encore embrigadée dans les syndicats, comme la CGT, pas sauvage au sens, mais qui n'est pas encore passée dans le moule de la CGT, donc qui est plus libre. Mais c'était un complètement mouvement spontanéiste de ces années-là, de 68. De cet esprit. Après, on peut toujours revenir dessus en se trouvant... Moi, j'ai cherché des filiations littéraires avec les surréalistes et tout ça, mais...
Oui.
C'était il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque, toute la France était... je ne trouve pas le mot, pas imbibé, mais tout le monde vivait de cette idée de la contre-culture.
Oui.
On était dans la contre-culture, mais aussi aux États-Unis, en Angleterre, je suppose, qu'on allait créer une contre-culture, qui existait d'ailleurs, cette contre-culture.
Donc,
existait.
Par exemple, en quoi consiste la contre-culture? La musique, certains livres
La façon de s'habiller, d'aller... on s'habillait tous aux puces, on recyclait ce qui est devenu maintenant... Je vois mes enfants qui appellent ça vintage. Nous, on était déjà vintage à l'époque. Contre, évidemment, il y avait aussi la critique de la société de consommation. Enfin, tout ça, toutes ces années-là.
Oui, d'accord.
J'ai un souvenir qu'il y avait beaucoup de joyeuseté.
Oui.
Même si après, on s'est mis à souffrir parce que les taux s'est resserré. Et puis aussi, on grandissait dans nos têtes. Et donc, on voyait bien que... C'est la fin, j'arrive pas à m'en souvenir, sauf que je suis allée directement en analyse, voilà.
Ah bon?
En
quelle année, ça?
73-74.
C'était moins courant à l'époque.
Je me souviens même pas comment tout ça s'est dénoué. Je sais plus. Donc ça a dû être douloureux.
Oui, tout à fait.
La façon dont tout s'est dénoué. Je me souviens même pas comment j'ai écrit L'Espoir gravé. C'est quand même extraordinaire.
Absolument.
Je ne sais pas.
Ça faisait pas peut-être partir de votre analyse.
Ça a dû être un élan.
Oui.
Enfin, je me vois pas le moment où je me suis mis à une date pour écrire.
Ah bon?
C'est très étrange.
Très étrange.
Et donc, j'ai
pourquoi
écrit.
Vous l'avez fait? Parce que vous l'avez
Mais
fait
ça
en 73, quelque chose comme
oui,
ça?
Oui, certainement. J'ai dû avoir une exigence intérieure telle que je
oui.
l'ai écrit. Mais je ne me souviens plus. Non, mais en plus, bon, évidemment, quand on vieillit, on perd la mémoire, mais on a quand même des éclats de
oui,
mémoire.
Oui, tout à fait.
Donc, je suis allée en analyse chez Lacan, en plus. Bon, je le raconte très rarement.
Oui.
Que j'étais chez Lacan.
Lacan lui-même.
Lacan lui-même. Parce que j'ai, Roland Castro, qui était en analyse chez Lacan, m'a dit va chez Lacan. Et donc, je ne sais pas, je ne savais même pas qui était Lacan. Mais il était très intéressé par les 68 ans, justement. Ceux qui avaient vécu cette expérience.
Parce que sa propre fille était 68 ans.
Oui, peut-être. Donc, il.
Et son beau-fils Miller, non?
Mais c'était pas, je crois qu'à l'époque, il n'était pas encore son beau-fils.
D'accord, d'accord.
Je ne suis pas sûre.
D'accord.
Bien que son beau-fils était vraiment de la tendance absolument dure du mouvement.
Oui.
La cause du peuple, c'était de la tendance dure. Enfin, moi, c'est ce que je
oui,
pense.
Oui, 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 tout à fait.
Bolchévique du mouvement. Les bolcheviques du mouvement. Mais j'en blague avec Olivier Rollin. On a fait quand même des. Il y a eu aussi une autre émission qui a été faite à France Culture il y a quelques années, à partir d'une pièce de Michel Deutsch qui s'appelait La Disparue, enfin
oui.
Un scénario. Et La Disparue, c'est la Révolution. Et donc, où Blandine Masson, qui dirigeait cette émission, avait invité comme ça toutes ces figures, Olivier Rollin. Et puis moi, où elle m'a fait lire quelques pages de L'Espoir gravé, enfin des
oui.
trucs comme ça. Donc, tous ces courants de ces années-là, et où on est revenu sur ce temps-là, et sur la radicalité de la cause du peuple, qui était quand même un mouvement très violent. Ce que nous n'étions pas à l'époque, et ce que nous avons dû subir. Parce qu'il se moquait de nous à l'époque, il nous disait qu'on n'était pas des vrais révolutionnaires.
Donc, des mains spontex.
Voilà.
Parce que j'ai pas très bien compris le terme spontex, c'est quelque chose pour nettoyer
C'était une blague, en fait. C'était la spontanéité.
La spontanéité, oui, d'accord. Ouais.
D'accord. Mais qu'il ne faut pas institutionnaliser la spontanéité.
Oui. Oui.
C'est la vie.
Vous racontez dans votre livre comme ça c'est terminé. Est-ce que vous, à l'époque, je ne sais pas si vous pouvez repenser ça un peu. Est-ce que vous pensiez que cela a été un échec au point de vue, enfin la révolution n'a pas eu lieu, que ce soit une révolution politique ou culturelle, vous avez essayé quelque chose qui a raté en quelque sorte ou.
Non, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça.
Non.
Bien que maintenant, j'écrive là-dessus sur la question de l'échec, mais c'est plutôt par rapport à l'échec général du communisme, donc l'histoire du communisme, parce qu'après, je suis allée en Russie, que j'ai beaucoup réfléchi à la question du totalitarisme. Et
oui.
Que c'est une obsession chez moi, même de la part totalitaire qu'on a en soi.
Oui.
Donc, de vouloir, quand on est... quand on veut changer le monde ou changer l'homme, etc. Donc, je suis repassée par les années 30, la radicalité des années 30. Je parle de la radicalité politique, pas de la radicalité esthétique. Mais
oui.
Je me suis beaucoup intéressée au congrès des écrivains de 1935, la façon dont la rupture entre les surréalistes et Aragon. Et la question des compagnons de route et tout ce qui s'est passé en Russie après, avec tous les grands poètes comme Mandelstam et Pasternak et Svetaeva et tout ça. Donc
oui.
C'était ça, c'est le fruit de mes méditations. Mais je pense que c'est justement à cause de cette radicalité, si on peut dire, des années 68 ou de la question de la révolution. En même temps, il y a eu la révolution des œillets, il y a eu des révolutions qui se sont passées sans violence. la chute du mur de Berlin.
Oui, d'accord.
Donc pour moi, c'est dans l'esprit, mon esprit de 68 serait là, quoi.
D'accord. Là, donc vous êtes allé en Russie à quel moment?
Dans les années 90.
Oui, après la chute du mur.
Mais pour... qu'est-ce que vous me posiez comme question sur 68?
Non, mais si vous pensiez que la révolution avait été un échec.
Ah oui, sur la question de l'échec.
De votre point de vue.
Parce que c'est quelque chose auquel je réfléchis, de le côté joyeux. Je vais vous donner des textes que j'ai écrits sur le côté fraternel et joyeux de mai 68. Que c'était plutôt l'expérience du tragique.
Oui.
C'est pas l'échec, mais c'est l'expérience du tragique. On dit je sais plus qui a dit ça, le tragique c'est la fête retombée, quoi.
Oui.
C'est plutôt le tragique dans l'histoire, quoi.
Oui, d'accord.
C'est plutôt ça mon expérience. C'est pas l'échec, c'est l'expérience du tragique.
D'accord.
Dans l'idée de la révolution. Et après, c'est pour ça que j'ai beaucoup pensé à tout ça, mais. Ça n'enlève rien. Par exemple, je me suis toujours étonnée que les trotskistes soient si nombreux en France.
Oui.
Qu'il y ait tellement de groupuscules trotskistes. C'est quelque chose qui m'étonne.
Oui, pourquoi?
Alors, parce qu'en même temps, ils sont liés à l'antistalinisme, et en même temps ils sont dans une langue de bois terrible et ils n'ont jamais mené jusqu'au bout la critique de la révolution russe.
Oui.
Parce que s'il y avait eu...
Ils ont un côté totalitaire, vous voulez dire.
Voilà.
Oui.
Ils n'ont pas été jusqu'au bout de la pensée... qu'est-ce que c'est que la pensée totalitaire? Et je pense qu'on n'y est même pas encore tous arrivés, ni même à comprendre tout ça.
Oui.
Mais pourquoi en France il y a eu les massacres de septembre en 1793? Donc ça, c'est des choses, on peut pas... La révolution, qu'est-ce que c'est que la révolution? Donc moi, c'est des trucs qui m'habitent, donc je ne sais pas comment on peut... C'est un questionnement, disons.
Oui.
Mai 68 m'a ouvert une sorte de questionnement sur l'histoire.
Oui.
Mais aussi sur... je pense qu'on peut pas faire l'économie de ça. Pour comprendre qu'est-ce que c'est que la révolution. En même temps, on pourrait se dire, serais-je devenue juste une progressiste ou une humaniste ou alors est-ce que j'ai peur des conflits, de la violence? Tout ça, je ne l'ai pas résolu non plus en analyse, mais
non.
L'analyse m'a conduit à écrire, c'est tout.
D'accord. Mais vous avez déjà écrit L'espoir gravé, ou ça...
C'était à ce moment-là, parce que je me souviens que je l'ai donné à Lacan, ce livre.
D'accord.
Et Lacan l'a pris, il l'a jeté en riant, et il m'a dit « Et maintenant ?»
Ah bon, pourquoi?
Mais c'était « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous allez continuer à écrire ?» Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété.
Oui.
Mais après, il m'a dit que c'était très bien. Il m'a remontré le...
Il a lu quand même.
Oui, parce qu'il m'a dit, la fois d'après, il m'a dit, c'est bien. Alors, c'est bien aussi parce qu'il y avait eu un article dans Le Monde. Et j'ai dit, mais c'était pas un article extraordinaire. Il m'a dit, ça fait rien, l'important c'est qu'on en parle. C'était
bien russe. Enfin, quelle était la réception de ce livre, à la fois par vos camarades et un public plus large?
Il a été très très bien, ça a très très bien marché, enfin des critiques formidables, mais par contre les camarades non.
Non.
Je crois qu'il y avait un sentiment de captation de l'histoire, donc je pense qu'on m'en a beaucoup voulu, bien que je l'ai raconté sur le mode romanesque, mais je pense que c'est toujours comme ça.
Oui.
À partir de... quel moment quelqu'un raconte l'histoire, peut-être cette histoire de mai 68 est tellement plurielle,
oui,
tellement gigantesque, donc personne ne peut capter.
D'accord.
Cette histoire, j'ai raconté cette histoire, je n'ai pas reçu, enfin si mes amis très proches ont aimé mon livre, mais je ne sais pas comment ça a été perçu. Je sais, j'ai su qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas aimé la façon dont je racontais l'histoire. Mais je pense que chacun, c'est difficile. Pour ça, je vous dis que peut-être ça reste un souvenir coupable pour moi, je ne sais pas.
Coupable.
Oui, d'avoir écrit ce livre dont que j'arrive pas à lire. Peut-être qu'il y a eu, comme ça, on disait à l'époque, des vibrations, vous savez, des mauvaises vibrations.
Vos amis avaient le sentiment d'être trahis ou critiqués ou quoi?
Peut-être que j'ai révélé dans ce livre des choses qu'on ne veut pas dire, ou je ne sais pas. Je vous dis,
Merci.
On n'est pas obligé de recommencer. Enfin, j'ai pensé qu'il y avait la grande question de ces années-là, après 68, où on était un nous, et qu'après on devait réfléchir au jeu, donc à retrouver son jeu. Donc le rapport entre le on, le nous, le jeu est toujours aussi présent. Comment ça s'articule, le jeu, le nous, le on. Par exemple, quelquefois j'entends des gens, enfin même des intellectuels qui disent à cette époque on était.
Oui.
Et j'ai envie de dire non, on ne peut pas dire on. Parce que même le nous est douloureux. Parce
oui.
que on est toujours en train. Le je, le nous. Où est-ce qu'il y avait du je? Est-ce qu'il y avait de l'ensemble? Donc, c'est vrai que c'est très compliqué ce qui se passe entre les êtres.
Oui, d'accord.
À l'espace de la démocratie, là.
Oui.
Anna Arendt qui dit c'est entre. La politique, c'est entre. Donc, qu'est-ce qui se passe entre? Parce que le nous, en même temps, moi j'ai très peur du nous.
Oui.
La révolution russe, les nôtres. Et tous ceux qui n'étaient pas des nôtres, on les envoie au goulag. Donc,
voilà.
C'est très difficile.
Oui.
Le nous, le je. Et parler au nom de soi, c'est aussi très compliqué parce que. Je crois que j'ai écrit dans un autre livre que l'enfer, c'est pas les autres, c'est soi. Donc, donc tout ça, c'est comment, qu'est-ce qui fait le lien, à quel moment. J'ai très peur des grandes unanimités.
Oui.
Donc, même tous les grands meetings là, qu'il y a en ce moment, je sais pas. D'ailleurs, c'est drôle que ça revienne, cette question de 68. 68, c'était multiple.
Oui, d'accord.
C'est pas une chose,
oui.
C'était
non, je comprends. Oui.
Totalement multiple. Donc maintenant, il y a des mémoires multiples, comme les hommes sont
d'accord.
multiples. Donc il n'y a pas de... Il y a toutes sortes de mémoires et toutes sortes d'incidences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la littérature et la poésie, vraiment.
Donc après, vous avez commencé votre analyse, vous êtes revenu sur 68, sur votre passé, sur votre enfance ou...
Mais non, j'ai écrit les autres livres,
oui.
Les Rives Gauches, Les Mots de Passe, et puis Châtelet-Léal, où j'ai toujours eu ce goût de l'amitié et de l'effervescence,
oui.
Et du mouvement, ça.
Oui. Non, je vais certainement lire ces livres.
Donc il y a de ces années-là.
Et le théâtre.
C'est-à-dire de tout ça. Le théâtre, après, j'ai plus du tout fait de théâtre. Non, je suis pas revenue au théâtre. Une fois que je suis revenue, une fois que je sais pas. Parce que je me visionnais pas comme créant une troupe de théâtre. Pourtant, il y a eu le théâtre lycéen, mais.
Je qui était après,
après. Oui, que j'ai à non avant Flin.
Avant Flin.
Et je me visionnais pas comme une Ariane Mnouchkine ou ça c'était mon j'étais pas capable de diriger quelque chose. Donc c'était le théâtre, c'était dans la même mouvance que 68, des éclats de moments, des moments de théâtre. Mais je pouvais pas me... Je crois même que je restais totalement Je suis jamais devenue une écrivain professionnel. Quelquefois, je me dis, c'est la profession. C'est quelque chose. Je disais toujours dans ces années-là, mais je crois que ça me reste. Je ne m'identifie, ne pas s'identifier à sa fonction. Donc,
Oui.
tout ce que j'ai fait après, qui était de rapprocher des mondes, comme l'architecture, la
Oui.
littérature,
Oui.
créer du lien. Parce qu'après, tout est. Quand on se promène à Paris, on va dans le monde du documentaire, dans le monde du cinéma, dans le monde de la littérature. Tout ça, c'est extrêmement séparé.
Oui.
Moi, j'ai toujours circulé entre ces mondes, en fait. Parce que j'ai travaillé longtemps avec Frédéric Rossif, je faisais les textes de ses
Oui.
films. Donc, tout ça, moi, j'adore tout ce qui fait passerelle, quoi, tout ce
Voilà.
qui crée du lien entre les
D'accord.
mondes. Donc, peut-être c'est. Pourquoi c'est ça? Peut-être que c'est ce qui me reste de mai 68, le passage entre les mondes.
Voilà, c'est très intéressant.
C'est
Oui.
peut-être ce qui me reste de plus fort de cette mémoire-là. Parce
Mais
que
j'ai, en
je, et,
vous
j'ai, et
écoutant,
tout ce que j'ai fait
oui.
de choses comme ces livres et tout, c'est toujours créer, enfin,
Oui.
c'est une république imaginaire au fond,
Voilà,
c'est une
voilà.
république de l'être imaginaire, ou de créer du lien entre ces choses, et j'ai jamais réussi à m'identifier à une carrière d'écrivain ou à une carrière de je sais pas quoi. Donc je fais toujours des. Ou quand je suis invitée à faire des ateliers d'écriture dans les écoles d'architecture sur la ville, je leur fais découvrir les grands textes du flâneur, le grand flâneur de Baudelaire, revu par Benjamin, la poésie, la façon d'habiter la ville. Est-ce que c'est aussi la. Quelque chose d'un bout de mémoire situationniste, d'un bout de mémoire surréaliste, tout ça. Donc c'est le. Je suis plutôt habitée comme ça.
Mais à l'époque, en 68, 60, 70, 71, c'était possible de faire le rapprochement entre ces différentes imaginations. Et après, vous dites qu'il y avait quelque chose s'est brisé, tombé en miettes, c'est ça?
Ben, dans les années. Après, dans les années 80, tous ces. Mais peut-être que c'est toujours comme ça, hein, que je suis
Oui.
une idéaliste totale, de ne pas imaginer qu'on embrasse des carrières. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une espèce de 68 en tout cas, quelque chose comme une sublimation de la marginalité.
Oui, dans quel
Et.
sens?
Ben, de. Ce qu'on appelait la contre-culture, la
Oui.
marginalité, c'est de ne pas pouvoir adhérer à la carrière.
Oui.
Donc après, tout le monde a fait des carrières dans tous les domaines. C'est normal pour
Sauf
toutes les
vous.
générations, sauf au 19e siècle, Rastignac, tout ça, le monde perpétuellement refabrique tout ça. Donc je pourrais m'interroger sur la position du poète, peut-être que je me suis
Oui.
rêvée comme ça, quoi.
Oui.
Mais de rester en marge un peu. Et peut-être que inconsciemment, c'est une forme de fidélité à 68, je ne sais pas.
Donc, que pensez-vous de ces gens dont on a parlé avant l'interview, qui sont devenus journalistes, hommes politiques, cinéastes, tout ça, enfin, qui ont, si vous voulez, réussi dans une sorte de carrière publique ou médiatique?
De toute façon, il n'y a pas eu vraiment. Je l'ai déjà écrit une fois, j'ai écrit au Monde une lettre, parce qu'il y avait un
Oui.
article de Bertrand Poirot-Delpech qui disait que tous les 68 arts avaient été à la soupe quand Mitterrand a été élu. Et moi, je pense que c'est faux de dire ça. Enfin, j'avais écrit, ça, je ne pourrais pas vous retrouver le texte, mais je l'ai écrit au Monde, en tout cas, qui s'est paru. Je pense que, à part Serge Julie, Brice Lalonde, et encore, de toute façon, il a fait un très grand journal où il y avait une grande liberté de pensée.
Oui.
Donc, Bernard Kouchner a créé Médecins du Monde, Médecins sans frontières. Donc, on n'a pas, c'est pas des positions de pouvoir, je veux dire. C'est des créations
Oui.
de pensée.
Oui.
Bon, l'écologie qui a été poursuivie le droit à la ville, tout ça, c'était des idées qui étaient déjà en germe dans les années 60. Donc, mais par exemple, Mitterrand disait qu'on était des crétins, nous, les gens de 68. Je ne pense pas que les gens vraiment de 68 ont été dans le pouvoir. Je ne comprends pas cette critique.
Non.
Je pense même que même si le Parti socialiste, Mitterrand a été élu parce qu'il y avait tout ce mouvement vers la gauche et que donc la gauche a pu être au pouvoir, c'est grâce à ces années 60-70. Mais je ne vois pas, enfin moi autour de moi par exemple, je ne vois pas quelqu'un qui a été dans des positions de pouvoir.
D'accord.
Après, tous ceux qui sont devenus artistes, donc c'est des grands artistes quelquefois. Donc c'est, je vois pas, je comprends pas cette critique quand on dit la 68 a été au pouvoir. Non.
Non, d'accord.
Moi, il y a eu le journal actuel, bon, des grands journaux comme ça. Mais pourquoi aurait-il interdit de faire des journaux
Oui, non, tout à fait.
C'est vrai. Donc mais je ne ressens pas, je viens j'ai entendu un type à France Culture là, qui vient d'écrire un bouquin où il dit que pour lui, les années 80, c'est la contre-révolution.
Oui.
Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à penser que ces années 70 ont été complètement occultées, y compris par le Parti Socialiste. Donc, c'est maintenant que ça revient par Nicolas Sarkozy, mais ces années 70 sont restées quand même très enfouies.
Oui. Et pourtant, les gens s'y intéressent de temps en temps. Vous dites vous-même que parfois les journalistes, enfin les historiens comme moi, ils arrivent pour en parler.
Oui, parce que c'est très énigmatique.
Oui.
Ces années 70 sont très énigmatiques.
Oui.
Donc il y a à la fois 68, tout ce qui s'est passé après 68. Je pense que en même temps, 68 a été le début de la fin du Parti communiste en France.
Oui.
Donc ça a joué un rôle très très important.
Oui.
Après, qu'est-ce qu'on a fait? La plupart des gens ont commencé à lire énormément, bon, Solzhenitsyn, donc l'apparition de cette question de la France de Vichy.
Oui.
On a vécu depuis 20 ans là-dedans. La France de Vichy et le Goulag. Ça a été tous les grands livres qu'on a lus.
Oui.
Robert Antelme, tout ça, c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à lire ça.
D'accord.
Primo Levi. Donc je pense que la question du totalitarisme a occupé nos pensées pendant 20 ans. Pendant que...
Et vous avez découvert le totalitarisme par Solzhenitsyn ou par Arendt, ou les deux?
Les deux.
Les deux.
Mais plus tardivement, c'est dans les années 90, Hannah Arendt.
Ah ouais, d'accord. Ouais.
Mais c'est vrai que... C'est même, je pourrais presque dire, c'est maintenant que je suis un peu obsédée par ces questions aussi de l'engagement, enfin, c'est l'éternelle question de l'engagement. Jusqu'où l'engagement? Qu'est-ce que ça veut dire l'engagement?
Oui.
Moi, je m'engage aujourd'hui pour la littérature et l'espace de la poésie, la poésie comme expérience. Donc, c'est ce qui me passionne. Donc, c'est quand je peux transmettre quelque chose, c'est ça. La littérature et la poésie. Donc,
vous écrivez la poésie?
Non, mais ça fait rien, je peux transmettre.
Oui, d'accord.
De lire. Donc c'est... Les années 70 sont complètement refoulées. Et quand elles réapparaissent, c'est toujours sous... Elles sont toujours instrumentalisées par le politique. Donc, parce que le Parti Socialiste n'est pas indemne non plus de ça. Hein.
Non, d'accord.
Ils ont beaucoup critiqué aussi 68 à des moments donnés. Donc, les années 70... pourquoi on n'est pas devenu, par exemple, en France, totalitaires comme en Allemagne et comme en Italie. Pourquoi notre radicalité s'est arrêtée? Tout le monde s'est autodissous, soi-même, tous les mouvements se sont autodissous.
Vous n'êtes pas tombé dans la violence,
ah ben oui.
C'est ça.
Pourquoi même le plus violent, comme la cause du peuple, s'est autodissous aussi.
Oui.
Pourquoi la psychanalyse nous a aidés? Parce qu'on on imagine mai 68 aurait pu tomber dans une violence comme en Italie et comme en Allemagne.
Donc vous pensez que la plupart des 68 ans ont opté pour la psychanalyse plutôt que pour la violence?
Ah non, je ne fais aucune généralité. Aucune généralité. Chacun. Je pense que Lacan a été une grande influence dans ces années-là.
Oui.
Et que c'était un penseur antitotalitaire.
Oui.
Je l'ai écrit, je le pense, vraiment. Donc,
quel était son message pour vous? Ou son...
Non, la vérité n'est pas toute. Enfin,
oui.
N'est pas... C'est le rapport à la vérité.
Mm.
C'est cette question du rapport à la vérité.
Oui.
La vérité est multiple. Donc, la vérité ne fait que se midire, et en plus, enfin, toutes les phrases magnifiques qu'il dit toujours, qu'il a dit dans ces années-là, qui ont une grande résonance.
Mm.
Du rapport à la vérité. D'accepter l'autre. Enfin bon, il y a eu aussi tout. Je pense qu'il y a eu beaucoup de l'apparition de Lévinas, tout ça, ça a beaucoup. La question de l'autre, ce que autrefois Rosa Luxembourg avait posé comme question, la liberté pour ceux qui pensent autrement.
Oui, oui.
Donc, toutes ces années-là, bon, après, l'histoire des idées en France, je ne sais pas, mais. J'ai toujours senti que dans les mouvements d'extrême gauche qui restaient, comme les trotskistes ou même les altermondialistes, ils n'étaient pas allés au bout de cette question du totalitarisme. Et c'est pour ça qu'on avait toujours une extrême gauche comme ça en France.
Oui, d'accord.
Qu'il n'y a pas ailleurs.
Ils ne l'ont pas repensé comme vous?
Ben, ils n'ont pas... Ils sont dans ces schémas des avant-gardes.
Oui.
Ce que ça veut dire, les avant-gardes qui détiennent la vérité. Donc, c'est quelque chose qui est en gestation dans toute la pensée, de toute façon, aujourd'hui.
Oui.
Donc, je ne suis pas originale en disant ça. Hein.
Non, tout à fait. Et certains qui ont fait cette critique du totalitarisme ont fini par être carrément à droite.
Oui.
Les gens comme Glucksmann, par exemple.
Oui.
C'est pas votre cas.
Non.
Non.
Non, de toute façon, Glucksmann est extrêmement ambivalent.
Oui. Comment ça?
Parce qu'il a, par exemple, toujours regardé la Russie à travers le prisme du goulag.
Oui.
Mais il n'a jamais regardé la Russie à travers le prisme de Pasternak, Svetaïeva et toute cette résistance morale intérieure qu'il y a eu en Russie. Les grandes œuvres de Platonov et de tous ces écrivains extraordinaires qui nous ont rendu ce que ça pouvait être que la vie en Union soviétique dans des œuvres immenses.
Oui.
Donc lui, il a... Et puis, lui, il a fait partie de cette tendance dure de mai 68, l'AGP, et justement ils se retrouvent, quelques-uns de cette mouvance se retrouvent, de cette organisation d'ailleurs, parce que c'était une organisation, se retrouvent derrière Sarkozy. C'est ça qui est étrange. Bon, moi je vous le dis parce que je le sens comme ça, mais c'est même pas encore détecté comme ça. Pourquoi une partie de 68 a pris le pouvoir dans la psychanalyse après Lacan, toujours transformant la psychanalyse de Lacan en une vérité, une et indivisible, à tel point que ça a même créé des tonnes de groupes.
Oui.
Donc pourquoi on les retrouve, c'est je sais pas, les Ulmars ou quelque chose comme ça. Peut-être, bon, évidemment, j'ai un esprit plus libertaire.
Oui.
Si on cherchait les filiations. Mais c'est aussi, je crois, un rapport à la question de l'élite.
Oui.
Qui se pose beaucoup, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'élite?
Oh.
Donc, la figure de l'intellectuel, la figure de l'élite. Donc, ces gens-là défendent une idée de l'élite qui est, pour moi, dans le droit fil de ce désir des compagnons de route du politique.
Ouais.
Bizarrement.
Ouais.
C'est un truc étrange d'avoir tellement critiqué le stalinisme et puis de se retrouver conseiller du prince. Mais c'est un peu comme les néo-conservateurs aux États-Unis.
Ouais.
Ça, c'est le rapport
ouais,
au pouvoir.
Oui, tout à fait.
Mais c'est une extrême minorité, c'est quelques... Mais c'est...
Qui font du bruit.
Qui font du bruit et cette... Parce qu'après, il y a eu l'apparition de l'intellectuel médiatique, etc., etc. Donc, moi, on vient pas... Je ne suis pas une intellectuelle médiatique. Je ne sais même pas si je suis une intellectuelle. Parce que tout ça, c'est, je suis complètement autodidacte, si on peut dire.
Oui.
Même si je suis invitée à faire des ateliers d'écriture dans les universités.
Oui,
sur
oui.
La question de la ville et...
Oui.
Et de habiter. De l'habiter. Comment on habite le monde aujourd'hui. Mais...
Vous êtes resté libertaire.
Mais je ne suis pas non plus dans un groupe libertaire.
Non, pas dans un groupe, mais vous avez un esprit libertaire. Plutôt. Je ne sais pas si ça se dit.
Mais c'est-à-dire que le rapport à l'autorité, pour moi, ne peut être que moral.
Oui.
L'autorité morale. Il y a une grande discussion sur l'autorité.
Oui.
L'autorité, qu'est-ce que l'autorité morale aujourd'hui?
Oui. Ouais,
ça, c'est une grande question pour moi.
Alors, qu'est-ce que c'est?
Bah, l'autorité morale, à ce moment-là, c'est le souci de l'autre, c'est toujours effectivement la fraternité, c'est l'injustice que je ne supporte pas, quoi.
Mmh.
Et donc, aussi dans la littérature, de me poser des questions sur... depuis des années, on ne s'intéresse que... mal dans l'homme, en généralisant le mal, l'homme est mauvais.
Oui.
Donc on arrive jusqu'au Bienveillant, le livre qui a eu tellement de succès. Donc on va regarder à la loupe les hommes. Mais moi je suis presque tolstoïenne à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'homme est aussi capable d'être résistant pendant
oui.
la guerre.
Oui.
L'homme est aussi capable d'être bon. Donc voilà, ce n'est pas. Quand on dit ça, on apparaît comme un rousseauiste stupide.
Non.
Mais moi, c'est des choses qui me bouleversent.
Mm.
Donc, je n'arrive pas à rentrer dans cette logique, même au niveau de la littérature, qui fait le succès de tous ces livres, d'aller... tout le monde n'a pas été nazi. Et l'homme ne porte pas forcément cette calamité en lui. Il y a même des gens qui vont dire que si on était pris dans cette situation, on aurait fait la même chose.
Oui.
Et ça, moi, non, je ne peux pas.
Non.
Je ne peux pas. D'ailleurs, les Anglais ont résisté de façon extraordinaire au nazisme pendant la guerre.
Ce n'était pas la même chose.
Oui. Bon, il y a eu aussi, effectivement, des courants nazis... pendant la guerre.
Oui.
En Angleterre.
Oui, tout à fait.
C'est intéressant parce que c'est des questions... par exemple, j'ai relu L'espoir de Malraux.
Oui.
C'est un très bon livre, L'espoir de Malraux.
Mm.
Mais c'est toute la question des années de la guerre d'Espagne.
Mm.
Donc, encore une histoire du stalinisme qui a liquidé... ceux qui pensaient autrement, quoi.
Mmh. Mmh.
C'est pour ça que je me suis passionnée pour la Russie depuis...
Voilà.
Depuis 10 voilà. ans, où j'ai beaucoup, beaucoup essayé de... Moi, je suis allée en Russie, j'ai travaillé un portrait de Boris Pasternak pour la télévision, Par exemple, les France Culture m'a demandé de faire, mais je l'ai fait, une fiction en 10 épisodes de la correspondance de Pasternak entre Pasternak et Tsvetaeva. Donc tout ça me passionne.
D'accord.
Ces
C'est pour retrouver un.
grandes consciences morales russes que je trouve, quand on lit même le docteur Jivago, pour moi c'est un immense livre où il se pose les questions que nous on a pu se poser après mai 68.
Oui.
Donc, qu'est-ce que c'est que cette énigme des régimes totalitaires?
Et ça rejoint aussi l'histoire de votre famille.
Oui, alors qu'est-ce que c'est? Qui était ma grand-mère? Mais ça, je ne sais pas. Les ombres et les lumières dans les familles. Mais voilà, ça vous avez
Voilà.
tout ce que
Bon,
vous
je crois
voulez.
qu'on peut
Vous
s'arrêter là.
voulez.
Hélène Blaskine, merci beaucoup. Oui, c'est formidable.